Bonjour Philippe Lhoste.
Bonjour Guylaine Dubois.
Philippe Lhoste, c'est votre première émission de cette série. Ce n'est pas votre première radio, loin de là, hein, nous y reviendrons. De cette série que nous commençons ensemble, Philippe Lhoste, et vous avez pour cette occasion une invitée, Madeleine Dohay, étudiante à Montpellier Supagro. Bonjour Madeleine Dohay.
Bonjour Guylaine Dubois.
Alors Philippe, je l'annonçais, vous commencez là aujourd'hui une série d'émissions, quatre émissions jusqu'à la fin de l'année. Alors quelle orientation voulez-vous donner à ces émissions prochaines, Philippe Lhoste ?
Eh bien, Guylaine, en tant que militant, je peux dire, d'agronome et vétérinaire sans frontières, donc agronome et vétérinaire sans frontières, AVSF est une ONG qui s'occupe de développement, d'appui au développement dans les pays en développement. Je souhaiterais attirer l'attention des auditeurs sur ces questions de développement durable au Sud. Et ça touche évidemment à toute la problématique de la sécurité alimentaire, de démarches agroécologiques qui permettent de produire plus sans dégrader l'environnement, du commerce équitable et toutes ces questions qui sont effectivement tout à fait d'actualité.
Alors je voudrais tout de suite rappeler que vous faites de la radio déjà avec la Maison des Tiers-Mondes. Et avez-vous déjà évoqué ces problèmes peut-être sous un autre angle ou avec une autre perspective avec Madeleine Guillot qui anime cette émission du lundi?
Oui, en effet, en tant que membre du conseil d'administration de la Maison du Tiers-Monde, où je représente Agronomes et Vétérinaires sans frontières, j'ai été invité à plusieurs reprises ici même. C'était en général pour parler de nos campagnes. Nous avons régulièrement des plaidoyers, des campagnes de communication avec le grand public sur des thèmes qui nous paraissent très importants. La dernière était, je crois, sur les pesticides, dont vous savez peut-être que l'utilisation dans les pays en développement est beaucoup moins bien contrôlée, avec des dangers qui peuvent être très graves pour les agriculteurs et parfois même pour les consommateurs. Nous en avions eu une précédemment avec Oxfam sur l'accaparement des terres. Voilà. Alors c'est en général à l'occasion de ces campagnes que j'ai eu l'occasion de venir présenter ces thématiques à FM+.
Alors aujourd'hui, Madeleine Dohay est à vos côtés et vous avez envisagé d'évoquer ce week-end organisé il y a peu par les étudiants de Supagro qui sont membres de Chrétiens en Grande École. Alors quel était ce week-end, Madeleine Dohay ?
C'est un week-end qui a lieu tous les ans dans une école d'agronomie ou d'agriculture différente de la France et qui regroupe tous les étudiants qui sont membres de Chrétiens en Grande École ou qui participent à un groupe chrétien ou à une aumônerie dans leur école d'agronomie ou d'agriculture. Donc cette année, c'était à Montpellier que cela devait se dérouler. Donc nous étions une équipe d'une petite dizaine d'étudiants, membres de Chrétiens en Grande École, et on a organisé ce week-end depuis le mois d'octobre.
Apparemment, Madeleine, les participants à ce week-end venaient de tous les coins de la France ?
Oui, tout à fait. Nous avions une vingtaine d'étudiants de Paris, notamment, une vingtaine aussi de Toulouse et des étudiants de Lyon.
Alors, il me semble que vous aviez choisi de vous inspirer de l'encyclique du pape François, Laudato Si, donc encyclique qui a maintenant 2 ans, puisqu'elle est parue en 2015. Qu'est-ce qui a justifié cette inspiration ?
Alors, le thème a été proposé par l'une des étudiantes qui organisait le week-end, et nous a tout de suite tous enthousiasmés de la même manière. Donc on a ressenti que c'était un peu un manque dans notre éducation, notre formation même chrétienne. Et même Laudato Si avait souvent été évoqué sur l'angle écologique, mais là nous voulions approfondir vraiment l'angle social et l'angle économique de l'encyclique, donc qui rappelle que tout est lié. Et nous avons choisi pour cela donc des intervenants qui se sont attachés à différents points de la justice sociale et écologique et à quel avenir économique on pourrait envisager.
Comment avez-vous organisé ces 2 journées pour aborder les thèmes de ce texte si riche ?
Alors on a commencé par le samedi matin une séquence d'ateliers où les étudiants étaient répartis en groupes de 8 à 10 avec un intervenant en particulier, ce qui leur a permis d'échanger longuement sur un thème très spécifique. Donc les intervenants étaient très divers puisqu'il y en avait d'entreprises, de la recherche ou de la coopération internationale par exemple, de l'agroalimentaire à l'entreprise de conseil, il y avait de tout. Donc chaque étudiant a pu trouver de quoi nourrir sa réflexion. Il y avait également des agriculteurs qui étaient là. Et donc c'était le samedi matin. Le samedi après-midi, il y avait un temps de conférence sous forme de table ronde où les intervenants étaient rassemblés par quatre, donc pour deux conférences, l'une plus sur la justice sociale et écologique et l'autre sur l'avenir économique envisageable, le changement de paradigme possible dans l'économie. Et donc ces conférences se sont déroulées par des questions spontanées, des organisatrices avec les intervenants. Et donc un échange comme ça qui a duré une heure et demie à chaque fois. Et quelques questions venant de l'assistance.
Pour avoir participé à l'une et l'autre, je peux dire que les débats ont été riches et les questions, quelquefois même un peu déstabilisantes pour les intervenants que nous étions. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Pour vous, Madeleine, en tant qu'organisatrice, quels étaient un peu les temps forts de ce week-end ?
Pour moi, les temps forts, ça a été vraiment les conférences, de voir que les intervenants, dans leur diversité, ont su faire vraiment preuve de complémentarité. Ils ont chacun enrichi le discours de l'autre. Il y avait des points sur lesquels ils n'étaient pas d'accord, mais ils se sont quand même écoutés. Et ils ont répondu, je pense, à la recherche de sens qui venait des étudiants, donc qui venaient les questionner sur le sens qu'ils donnaient à leur métier, sur le sens qu'ils voient à l'économie et à la façon d'exercer sa profession. Et ce sont vraiment des questions auxquelles on a eu une réponse.
Est-ce que vous diriez que les étudiants avaient des concepts en tête, une théorisation, et que les intervenants, eux, apportaient l'aspect pratique ?
Il y a eu de nombreux exemples donnés, effectivement, notamment par Philippe Lost sur le continent africain. Donc, on a pu voir quelques exemples plus précis. On a eu aussi un chef d'entreprise agroalimentaire qui nous a donné vraiment des clés comment voir le beau, le bien et le bon et le promouvoir dans une entreprise. Donc, ça a été vraiment des clés concrètes.
Une des questions que je me posais à propos des conférences, où j'ai eu l'impression que le public jeune était très nombreux, est-ce qu'il y avait des étudiants en dehors de votre groupe d'étudiants chrétiens qui sont venus pour participer au débat ?
Tout à fait, notamment sur la deuxième conférence, il y a eu des étudiants non chrétiens de Supagro qui sont venus se joindre et qui d'ailleurs nous ont fait leur retour par rapport à cette conférence et qui ont beaucoup apprécié, notamment l'abord de l'angle spirituel qui les a beaucoup intéressés également.
C'est bien que le mot spirituel ne leur ait pas fait peur, parce que je connais des cercles où on évite presque l'adjectif de peur de faire fuir les gens.
Spirituel, ça passe mieux que religieux.
Oui, certainement. Et puis spirituel, c'est l'esprit. Avoir de l'esprit, ça peut être ça. Drôle. Pour avoir participé à la conclusion dimanche après-midi, je peux dire que ça n'inspirait pas la tristesse.
Oui, c'est vrai, nous étions tous très fiers et heureux de tout ce qui s'était passé ce week-end, de toutes les interactions, notamment entre les étudiants et les intervenants. Ça a été très riche pour tous les membres.
sur FM Plus 91 FM avec Philippe Lost et Madeleine Dohet. Nous évoquons un week-end organisé il y a peu par les étudiants de Supagro Montpellier, membres de Chrétiens en Grande École. Alors, vous nous avez proposé, Philippe Lost, en interlude musical, un chant de Thésée, qui me semble fort à propos. Vous allez nous dire pourquoi.
Ce chant bien connu de Thésée est inspiré d'un psaume, Laudate Dominum. Et le lien, évidemment, avec l'encyclique du pape François, Laudato Si, qui, elle, s'inspire de François d'Assise, était quand même assez clair. Et puis, Thésée a traversé les générations. C'était déjà un lieu que nous apprécions beaucoup lorsque j'étais moi-même jeune. Et 50 ans après, il est encore apprécié des...
Toujours aussi jeune, Thésée.
Des étudiants, mais des jeunes actuellement.
Voilà, ça traverse les ans. Alors, nous avons vu ensemble, surtout avec Madeleine et vous, Philippe, comment s'était organisé ce week-end des ateliers, des conférences, des échanges fructueux. Alors, au sujet des ateliers, Philippe, quel regard avez-vous eu, vous, en tant que peut-être agronome, vétérinaire, spécialiste du tiers-monde, enfin des pays en développement? Qu'est-ce que vous auriez à nous dire par rapport à ces échanges?
Alors, le matin... Nous avons passé 2 heures avec une dizaine d'étudiants sur un thème qui les interpellait beaucoup, qui était celui de la coopération et de la solidarité internationale. Moi, j'avais le regard d'un ancien qui a débarqué en Afrique il y a 50 ans, effectivement, et qui milite maintenant dans des ONG. J'ai été très intéressé par les questions des étudiants. Certains ayant déjà de l'expérience, l'un avait déjà fait un stage au Pérou, l'autre venait d'Afrique... D'autres étaient plus jeunes dans leur formation et n'avaient pas encore beaucoup d'expérience de terrain. Mais leur questionnement était indiscutablement différent de celui que nous pouvions avoir il y a quelques décennies lorsque nous partions sur le terrain. Lorsque j'ai débuté, peu après les indépendances en Afrique, le champ des possibles était terriblement ouvert. Nous avions évidemment un enthousiasme tout à fait important, considérant que tout allait se passer aisément et dans la bonne humeur, et en tout cas avec des résultats rapides. Force est de constater que ce n'est pas tout à fait le cas. Et ça amène bien sûr les jeunes ingénieurs qui se forment maintenant à se poser d'autres types de questions, notamment par rapport à la transposition de nos modèles du Nord dans des pays en développement, notamment par le rôle que l'on a lorsque l'on fait partie d'un projet de coopération ou même lorsque l'on intervient au titre d'une opération humanitaire dans la solidarité internationale. Et donc, j'ai eu évidemment beaucoup de questions qui tournaient autour de la difficulté en définitive de bien réaliser ce type de projet. J'allais dire, en caricaturant un petit peu, pourquoi tant d'échecs en définitive? Si on examine, à titre d'exemple, la situation d'Haïti, après le séisme de 2010, énormément d'aide a été consacrée à ce petit pays, et les bilans qu'on en fait 6 ou 7 ans après, alors qu'entre-temps un nouveau cyclone est passé, soit dit en passant, ce qui n'a pas arrangé les choses, évidemment, le bilan néanmoins que l'on peut en faire est quand même très mitigé. À savoir qu'il y a encore beaucoup de gens très mal logés, que la relance de l'agriculture n'est pas vraiment satisfaisante, que la coordination entre les intervenants, notamment les ONG, n'a pas été optimale. Et c'est certainement un domaine dans lequel on peut beaucoup mieux faire.
Mais vous avez une idée de comment mieux faire ? Pas encore.
Il y a... moi, je suis très attaché à une perspective... qui n'est pas facile, certes, qui serait celle d'une meilleure coordination. Je crois que dans Laudato Si, vers la fin, le pape évoque une nouvelle solidarité universelle, la nécessité de construire de nouvelles modalités de la solidarité universelle, qui unirait donc les interventions des gouvernements, donc bilatérales, à celles des institutions internationales, donc multilatérales, qui unirait les interventions des institutions à celles des ONG, qui s'inscrivent dans un cadre humanitaire beaucoup plus, j'allais dire, indépendant, comme le nom l'indique d'ailleurs, opération, organisation non gouvernementale. Et je pense que là, pour le constater sur le terrain trop souvent, on a énormément de progrès à faire. Je ne voudrais pas être trop pessimiste, mais on est obligé de constater que dans certains cas, ces intervenants se retrouvent presque plus en situation de concurrence plutôt que de synergie, alors que les complémentarités de leurs actions pourraient être mieux mises à profit des bénéficiaires dont les besoins, si on pense à Haïti par exemple, mais on pourrait bien sûr parler du Sud-Soudan, de l'Érythrée, de la Somalie, etc., les pays où il y a d'énormes problèmes actuellement, non seulement politiques, mais des problèmes réellement de faim, de famine. Des millions d'enfants en Afrique sont menacés de famine en ce moment. Et ce sont des choses pour lesquelles on a une grande difficulté actuellement à apporter des réponses vraiment concertées et vraiment efficaces.
Madeleine, est-ce que c'était un aspect qui ressortait de ces week-ends, cette expérience-là, ce manque de coordination entre les intervenants dans différents pays? Est-ce que vous avez entendu ça par ailleurs ou est-ce que ce n'est pas perceptible encore?
En tout cas, c'est une question vraiment que se posent les étudiants, notamment quand ils se posent la question d'aller aider à l'étranger, soit dans le cadre d'un organisme humanitaire, soit dans le cadre de la coopération internationale dans la recherche. Il y a toujours cette idée de est-ce qu'on vient apporter plutôt quelque chose de positif, ou ce qui est l'intention première, ou est-ce qu'on risque aussi d'aggraver certains problèmes ou d'empêcher le pays de lui-même se relever de choses ou de problématiques locales. Donc c'est en tout cas très présent chez les étudiants, ce questionnement de savoir où vais-je être vraiment utile.
Comment vais-je être aussi peut-être.
Exactement, et au-delà de simplement avoir bonne conscience, je pars à l'étranger, j'aide l'humanité, où vais-je être vraiment utile et comment le faire de manière éthique et comment mettre en lumière tout ce qui est bien localement, etc. C'est une question très présente.
Philippe?
Oui, cela pose clairement, et ça c'est venu très fortement dans l'atelier, cela pose clairement la question des modalités de cette intervention. Si on arrive sur le terrain avec l'idée que venant du Nord, et parfois les gens du Sud nous mettent dans cette position, ce qui peut être très très gênant pour un jeune, d'être mis dans la position de celui qui sait, de celui qui va apporter les solutions. Et il est clair que ce n'est pas une bonne position. Certains ont pris cette posture et les résultats ont souvent été très décevants. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il faut prendre le temps de la connaissance, du respect des sociétés dans lesquelles on intervient, de la connaissance de leurs propres contraintes, de leur culture, de leur histoire, de leurs projets. Et ce faisant, prendre le temps d'une analyse préalable qui pourra nous amener à co-construire avec eux des projets qui correspondent réellement à leurs besoins les plus importants, qui n'apparaissent pas forcément au premier coup d'œil. Et les erreurs de diagnostic qui peuvent être faites par la coopération parfois ou par les ONG, dans certains cas aussi, sont parfois très graves. Et une des questions qu'il faut toujours se poser quand on est sur le terrain, c'est de savoir qu'est-ce qu'il va rester lorsqu'on va se retirer. Que l'on se retire après quelques mois ou après quelques années, on a souvent de ce point de vue-là des bilans qui ne sont pas vraiment très heureux, disons, et parfois même, je pense que Madeleine faisait presque allusion à cela, parfois même on a pu écrire, on a pu lire des articles assez caustiques sur le fait que plus il y a eu d'aide, moins le développement réel s'est produit. Donc il faut être très attentif à cela, le développement se fera évidemment par les gens du Sud, par les sociétés du Sud. Ce que l'on peut apporter, c'est simplement des éclairages, des appuis, des informations qui peuvent être utiles, une co-construction à faire ensemble en prenant le temps de le faire. Les temporalités des projets de développement souvent sont pas adaptées réellement à la dynamique des sociétés sur lesquelles on intervient. Et ça peut parfois amener à des échecs qui sont vraiment très regrettables.
Le fait que ce week-end ait été organisé par des étudiants chrétiens, est-ce que ça a une incidence lorsqu'on fait de la coopération, d'être chrétien ?
Je pense, j'ai vécu moi mes séjours sur le terrain au titre du CIRAD à une époque et maintenant plus en appui à des ONG en tant que chrétien. Il est très clair qu'il y a énormément de gens qui, non chrétiens, font du très bon travail. Ça me paraît tellement évident. Et j'ai tellement souvent travaillé avec des gens qui ne partageaient pas ma foi, mais qui faisaient un travail tout à fait remarquable que évidemment, on ne peut pas s'adjuger le privilège de le faire, mais de le faire nous seuls. Mais je veux dire que le chrétien est amené à avoir une position, je crois, réellement de respect de ses interlocuteurs. Et notamment à ne pas, à le faire, je dirais fraternellement, à éviter la position de supériorité qui était vraiment celle que j'ai connue il y a une cinquantaine d'années quand j'ai débarqué en Afrique. C'était peu de temps après les indépendances et tous ces coopérants, tous ces enseignants qui avaient connu l'époque coloniale, bon, tous, c'est beaucoup dit, hein. Certains, évidemment, n'étaient pas dans ce moule, mais certains avaient réellement une position dominante qui était absolument irrecevable et qui nous mettait, nous, les jeunes qui arrivions, en contradiction formelle avec eux, ou au moins en position de débat avec eux, parce que il est clair que pour intervenir sur des situations de cette nature, il est exclu d'arriver en prétendant avoir les solutions. Nos modèles économiques des pays industrialisés du Nord ne sont de toute évidence pas adaptés à des pays en développement qui sont confrontés à bien d'autres défis, le défi démographique, le défi de l'enseignement, le défi alimentaire. Donc il faut beaucoup de modestie, beaucoup d'écoute. Je pense que le chrétien est appelé à cela, à respecter son interlocuteur, à apprendre de lui, à considérer qu'en situation de coopération, on est dans un échange où l'un et l'autre bénéficient de cette relation.
Merci Philippe Lost, merci aussi à Madeleine Doué, qui est bien sûr l'invitée permanente de cette radio. C'est quand vous voulez, et à nous revoir alors. Au revoir.
Merci Guylaine Dubois.
Au revoir Guylaine Dubois.